Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons encore avec chance, donc sur Radio Grand Ciel, Bill Pearl pour son ouvrage Cœur brûlant, Paris 1968, et nous allons pouvoir continuer comme le mois dernier nos échanges donc avec Bill qui nous fait l'honneur donc de venir tout droit de Floride où il fait chaud contrairement à chez nous. Bill, donc nous reprenons ces échanges que nous avions le mois dernier avec Eden, qui nous fait le plaisir d'être présent. Et tout de suite, donc, cette période historique qui te passionne, hein, manifestement, c'est une période pour toi de grands enseignements sur le plan politique et sur le plan de l'engagement et sur la nécessité aussi pour les hommes d'être capables de travailler ensemble afin de résoudre les problèmes.
Oui, je crois que c'est une leçon de ce moment. Je voulais dire d'abord, c'est un plaisir d'être ici encore en studio avec vous deux. Merci pour m'inviter. C'est un plaisir d'être ici. Alors, oui, je crois que l'époque de 68, cette période en Europe, en France et autour du monde, le mouvement des étudiants a fait je crois qu'il a résultat dans des réformes importantes dans beaucoup des parties de société de la France, spécialement dans le système éducation. Mais je crois le mouvement vers participation des citoyennes, une société plus ouverte, pas aussi structurée, rigide.
Oui. Strict,
oui, oui. C'est quelque chose qui se passe à cause de ces événements et c'est important. Et je crois, comme j'ai dit pendant mon dernier visite, que c'est quelque chose de spécialement important aujourd'hui. Et dans le roman Cœur brûlant, j'essaie comme Américain, voilà. Cœur brûlant, Paris 1968, je prends des événements comme un contexte pour dire une histoire. Et j'essaie plus que de donner un goût comme il était à vivre comme un jeune homme, une jeune fille dans ce moment. C'est un moment différent et les caractères dans le roman ont des expériences de ce moment dans le roman.
Alors, tu as publié ce livre d'abord aux États-Unis, je crois.
Non, j'ai écrit le livre en anglais. Oui. Et il était traduit par une équipe formidable en Clermont-Ferrand, Madame Anne Lordereau et la compagnie qui s'appelle Melting Trout. Il est traduit en français, il est publié ici en France d'abord et ensuite en anglais.
D'accord.
En Amérique.
Okay.
Voilà.
Très bien.
Et maintenant, il a été traduit en vietnamien pour les lecteurs du Vietnam.
Ah oui,
parce que My Han, un autre protagoniste dans le roman, c'est la belle, très forte jeune fille avec qui Robbie tombe amoureux, Robbie Sandberg d'Amérique qui arrive à Paris. Elle était vietnamienne, la fille fictitieuse de l'ancienne ministre d'étrangers du Vietnam, les doctors. Donc c'est pourquoi il était traduit en vietnamien.
Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, une histoire d'amour dont je vais pas révéler évidemment les tribulations, mais il se passe des choses incroyables. Et alors, tu as trouvé une fin,
oui,
romanesque,
oui,
incroyable.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un roman qui tient au corps. Je veux dire, on peut pas lâcher le livre. C'est difficile de lâcher le livre.
Est-ce que la question qu'il était difficile à créer le livre,
lâcher le livre, ça veut dire if you take the book,
oui,
you have to end it. You have to end it.
Oui. c'est une histoire qui ça c'est une question pour un auteur d'un roman, quand est la termination, quand est-ce qu'il est le moment propre pour arrêter, c'est aussi difficile que commencer en écrivant un roman, je crois. Mmh. Les deux sont difficiles. Dans ce cas, il y a un épilogue qui prend les événements et le contexte de 1968 jusqu'à 1972 et au Vietnam. Et donc, il y a un moment où on peut voir ce qui s'est passé de l'époque du roman au caractère Robbie et Mihan. Et autre chose, je laisse pour les lecteurs pour découvrir. Il y a des choses puissantes. Je crie chaque fois que je loue le dernier chapitre du livre. Parce qu'il y a des trucs, des choses très émotionnelles.
Bien sûr, oui. C'est très émouvant.
Ouais.
Tu nous disais donc le mois dernier que ce n'est pas un livre autobiographique.
Oui.
Malgré tout, il y a bien des éléments peut-être que tu as pris de ta propre vie, que tu as scénographié, non ?
Oui, donc c'est vrai, c'est une partie biographique dans quelques sens. Je partage de quelques caractéristiques de Robbie. Et certainement, il y a des moments dans le roman, comme dans le train, autres moments ce sont des moments que j'ai créés, inspirés par mes expériences personnelles en France à ce moment. Mais c'est pas une biographie, c'est un roman, voilà. Mmh. Je me sors mes expériences comme pour la matière, pour l'inspiration, et c'est ça.
He was very impressed by your style. Anyway, you see, if you begin to read the book, you cannot stop it because it's so interesting until the end. How did you do that? How did you write the right episode? How did you find all kind of episodes which are not really inspired by your life story, but how? That was the question. Ce que j'ai dit à Bill, c'est que Pascal était très impressionné par votre style, parce que si une fois on prend le livre, il faut aller jusqu'au bout, et il y a plein de choses intéressantes. Et comment vous avez travaillé sur ce style pour que ce soit si intéressant avec plein d'épisodes qui sont pas forcément nécessairement de votre vie réelle, mais d'où vient cette inspiration, ce style, quelle est votre manière d'écrire un livre, un roman?
Alors, c'est difficile à répondre à une question comme ça. D'abord, merci pour pour dire ça. Mon idée, mon purpose était de créer une histoire qui est léger, qui est fun to read, pas quelque chose. C'est pas une étude historique, c'est pas une livre. J'ai écrit avec l'idée de créer enjoyment, plaisir pour ceux qui lisent. Oui. Donc, la question de comment on peut faire ça, c'est une question de quand vous faites des photographes ou des choses, quelque chose qui est instinctual, d'instinct, avec des mots, avec des.
Intuition,
créativité et tout ça, c'est pas quelque chose que je peux faire une définition, répondre dans une moyenne exacte. Oui. Je pense à l'histoire d'un homme avec une usine et le grand équipement est cassé. Il appelle l'aide tout de suite parce qu'il y a un problème grand pour l'usine. Et l'homme qui fait des réparations arrive avec une, comment dit-on, hammer.
Le marteau.
Marteau. Oui. Il frappe la machine, il donne à l'homme qui a l'usine une bill, comment dit-on, bill
Le facteur
pour 10 millions de dollars. Et l'homme avec l'usine dit, 10 millions de dollars, tu vois, tu as justement fait avec le menton un fois et tout, ça me coûte aussi. Il dit, ah, non, pour frapper le match de l'équipement, il coûte un sou. Le reste, c'est pour moi qui je sais où on doit frapper le machine. Donc, alors... C'est comme écrivain qui écrit, il faut des instincts qu'on a pour dire une histoire. Et ça, c'est la valeur, je crois.
Bien sûr. Il faut trouver juste un bon endroit pour frapper.
Et j'espère que ça marche. J'ai essayé.
Ta famille a lu le livre?
Mon famille, oui.
Oui, tes enfants, ta femme.
Oui, je crois que tu as lu le livre.
Tout le monde a lu.
Oui, absolument.
Et ta femme, elle n'est pas jalouse, non?
Pas du tout.
Elle s'est pas demandé, Roby.
Une femme formidable, très très extraordinaire, indépendante. Elle aime le livre beaucoup. Elle est très fière de moi pour avoir fait ça. Oui. Très supportive. Imaginez-vous qu'une femme qui me permette d'aller à Paris 2 mois toute seule pour faire du travail comme ça, avec le support de sa femme. Alors Idina fait thumbs up. Elle est formidable, ma femme Joanne d'Amérique de Floride. Elle est formidable. Elle est psychologue là-bas. Et mon fils sont deux enfants très créatifs. Ils apprécient, je crois, ce que j'ai fait dans le roman. Mm. Oui.
Bien, alors après ce détour par les questions familiales et donc ce qui a pu prévaloir à cette écriture donc de ce roman, j'ai envie de te demander pourquoi en fait 68 plus qu'une autre année, dans cette année-là, au-delà de ce que tu as pu déjà nous dire, qu'est-ce qui est si fort pour que toi, tu aies écrit un livre à partir d'un épisode vécu? Bon, certes, tu étais en France, mais ta vie, elle est riche de multiples aventures. Et pourquoi tu es venu convoquer cette année-là, précisément, dans ton passage par Paris?
C'est simplement parce que l'inspiration vivre là. Pour moi, j'étais inspiré de créer une histoire pendant cette période. Et c'est tout. C'est pas quelque chose de très compliqué.
C'était un bon endroit pour préférer.
Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça commence dans mon imagination.
Exploser
oui,
tous les autres histoires.
Oui, c'est ça. Mais la création pour finir, pour faire tout l'échange, j'ai l'assistance et le support des éditeurs, des gens qui m'aident avec. To edit a book. En français, qui s'appelle un autre mot pour ça. Editor, c'est pour publier, mais the person that edits the book is what?
Éditeur.
Éditeur aussi. Bon, j'ai l'assistant des éditeurs pour peaufiner, parce qu'il faut beaucoup de travail pour faire beaucoup de travail pour
juste, on parlait de ta famille, l'impression de... qu'elle a en fait de ton livre, ton histoire, l'histoire racontée dans son livre, dans ton livre. Alors l'année 68 aussi, c'est un peu la révolte contre toute forme de autorité, y compris autorité parentale dans la famille.
Oui.
C'est un peu le début de décomposition de la famille traditionnelle, il me semble. Mm-hmm. La nouvelle génération n'accepte plus comme avant l'autorité parentale. Du coup, la famille a moins de valeur, commence à avoir moins de valeur dans les générations suivantes. Alors, tandis que vous avez dit que dans votre livre, toutes les histoires ont plutôt inspiré vos enfants. Votre famille a beaucoup aimé cette histoire. Alors, ils n'ont pas posé la question, en fait, parce que ça touche vraiment quelque chose assez, assez révolte contre la famille aussi, non?
Non, non. Mes enfants sont de notre âge, de notre époque, d'aujourd'hui. Hmm. Et ça, ils sont...
Mais comment vous voyez notre époque pour la famille, en fait?
Je voudrais dire que dans le livre, dans le roman, c'est une question qui est là dans la vie des caractères. Par exemple, Miha, vietnamienne, d'une société traditionnelle, une relation avec son père traditionnel, dans une société complètement patriarcale. Qu'est-ce que c'est le mot en français? Patriarcal. Patriarcal. Et elle est affectée par l'Ouest. Elle voudra faire ses décisions elle-même. Elle est affectée par le mouvement de libération des femmes. Et ça, c'est dans le livre, dans le développement de sa caractère. Roby est d'une famille juive. Son père a un business. Il est contre la guerre vietnamienne parmi son famille et des autres amis de son vie aux États-Unis qui à l'époque étaient pour la guerre, qui pensent que la guerre marche bien, qui entendre aux propagandes du gouvernement qu'on va gagner. Et donc, c'est pas une question de famille, n'est-ce pas? Mais il a des problèmes avec son père qui n'accepte pas ses opinions, ses points de vue sur la guerre. Donc, il y a beaucoup de tension familiale. Et dans un moment quand je crois les jeunes rebellés contre l'autorité dans la famille et dans la société aussi. Je ne connais pas si ça répond à votre question, mais j'ai essayé.
En tout cas, Je comprends ce que veut dire Eden. Enfin, en tout cas, il me semble que je comprends. En tout cas, je comprends sous un certain angle le sens de sa question. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, en France, on parle de 68, donc on a souvent tendance à penser que 68, ça a détricoté donc, les relations au sein de la famille. Et que finalement, les parents ont perdu de l'autorité par rapport aux enfants, que les enfants ont gagné en liberté, mais que cette liberté les conduit à faire des choses qui sont pas très, très glorieuses. Hein. Ça peut les conduire à de l'incivilité, à de la délinquance, à des prises de drogue, etc. Et on a tendance aujourd'hui, dans beaucoup de discours, voire même dans des discours politiques, à mettre sur 68... une responsabilité qui n'est pas celle que toi tu mets dans ton livre. Et c'est en ça que c'est intéressant, et je trouve que la question d'Éden, elle était très très pertinente. C'est que toi tu prends les choses, mais tu les prends à l'envers. C'est-à-dire que tu nous montres ce qu'est en fait l'éducation avant 68. Oui. Tu nous montres la jeunesse, hein, un jeune de 20 ans en 68, tu nous montres qu'il a été élevé par des parents. Ses parents, ils peuvent être américains, français ou vietnamiens.
Oui, c'est vrai.
Et ces enfants, et ces enfants-là, ils sont confrontés à une rigidité qui leur vient de leurs parents. Et cette rigidité, elle est compliquée à gérer parce que, parce qu'elle vient les pénaliser dans leur rapport aux autres. Et justement, ce que tu montres, toi, c'est le monde qui arrive. Et tu montres comment, en fait, cet Américain, avec cette Vietnamienne, peuvent concourir à la paix dans le monde. Et ça, c'est très beau. C'est émouvant, même en parlant. J'ai cette émotion qui me revient, parce que tu dis des choses qui sont fantastiques. Et tu montres... Enfin, alors, évidemment, on est dans la fiction. Mais en même temps, cette fiction, elle est tellement rédigée d'une manière particulière qu'on a l'impression que c'est autobiographique. Oui. Hein. Mais en fait, tu montres comment, justement... en échappant à l'assignation des places, comment, en fait, le monde peut changer. Et comme tu le dis, le monde, il a changé. Oui, la femme a trouvé une place dans le monde différente grâce à 68 et aux conséquences. Les questions d'adoption, les questions de divorce, les questions de partage de l'autorité parentale, etc. Oui. Alors oui, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut critiquer, mais en même temps, ce que l'on fait au quotidien, c'est lié à des aspects qui sont multifactoriels. On ne peut pas simplement dire que tout ça, c'est à cause de mai 68. Auparavant, effectivement, il y avait une éducation qui était très, très rigide. Il y avait de la violence intrafamiliale. Il y avait des choses qui étaient éminemment critiquables. Et ça, tu en parles très bien dans ton roman. Et tu montres effectivement comment on échappe à cette assignation. Oui. Donc je trouve que ce que disait Eden est très important parce que ça permet de mettre en relief aussi les jugements que parfois on peut établir sur cette époque-là et qui sont des jugements un peu à l'emporte-pièce. Hein. Oui. Donc c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe même, je veux dire, que de comprendre... ce qu'a été cette époque. Et aujourd'hui, si on fait cette émission, et si tu nous fais le plaisir donc, de venir à la fois en novembre et en décembre 2018, 50 ans donc, après 68, c'est important aussi parce que ça nous permet de réfléchir à cet héritage, en fait, hein, à cet héritage. Voilà.
Merci de vos commentaires sur le livre et les caractères. Je crois que il vaut mieux toujours, en écrivant un roman comme ça, pour dire moins qu'en montre. Et j'espère que les défis des caractères, Robbie et Mihan, montrent ces changes qui se passent au moment, à l'époque. Excusez-moi.
On va revenir sur les caractères de Robbie et de Mihan après une petite pause musicale. We don't need no education. We don't need no God's control. No dark sarcasm in the classroom. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, avec à l'antenne Bill Pearl qui vient donc de Floride nous parler de son ouvrage Cœur brûlant, Paris 1968. Donc nous reprenons l'échange au point où nous l'avons laissé. Et je voudrais demander à Bill Pearl l'impact qu'a pu avoir un ouvrage comme celui de Marshall McLuhan, donc dans les années 80, et qui mettait en évidence le changement de paradigme avec les nouvelles technologies. Et je sais que c'est des choses que tu as travaillé ces questions-là. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Tu parles de l'introduction des nouvelles télévisées, tout ça.
C'est ça, les nouvelles technologies. Alors, oui, à l'époque, oui, la télévision, oui. Mais aujourd'hui, on voit bien l'impact des nouvelles technologies, téléphones portables, ouais, informatiques.
Moi, je crois que j'ai dit dans notre dernière visite que la télévision est instrumentale dans l'échange autour du monde, le mouvement des étudiants. Sans télévision, on peut savoir ce que se passe. Les étudiants à Paris ne peuvent savoir ce que se passe à Berlin et à New York et autres villes autour du monde dans ce mouvement des étudiants. L'autre question, c'est les questions de puissance de technologie, ce monde interconnecté que nous avons aujourd'hui. Plus que dans une moyenne que les dirigeants des mouvements ouvriers, des mouvements étudiants dans l'époque de 68 ne peut imaginer. Donc ça c'est une chose différente. Je crois que ça c'est une question de politique et des questions d'impact sur le nouveau technologie et le monde intégré, l'économie du monde qui est intégrée aujourd'hui, où il y a des gens dans beaucoup de pays qui ne benefit.
Je pense que la nouvelle technologie a joué un grand rôle dans le changement de la société, par exemple en Corée, parce qu'elle a vraiment contribué à faire partir le régime dictature. Parce que quand on fait une manifestation, on se connectait sur les réseaux sociaux et le gouvernement ne savait pas comment ça s'organise. Et du jour au lendemain, il y avait des milliers de gens qui sont dans la rue, mais d'une manière tellement organisée, bien organisée. S'il n'y avait pas de nouvelle technologie, ce n'était pas possible. Donc la nouvelle technologie, aujourd'hui, c'est à peu près un peu ce qui se passe comme un grand vecteur de l'année 68, je pense.
Donc, ce que tu nous dis, Eden, c'est que les nouvelles technologies ont une vertu démocratique.
Oui. Ça aide vraiment à la démocratie. Peut-être.
Sur cette question, je me demande si la course à grande vitesse qui se passe vers le monde interconnecté, vers une économie globalisée, n'a pas entraîné autant de préjudices que de bienfaits. Ça, c'est le sujet que tu m'as demandé, je crois. Et moi, je crois que c'est un problème. Il y a un problème là, mais c'est quelque chose d'aujourd'hui et de politique, pas de mon roman. Donc, oui.
Mais bon, c'est vrai que ça peut avoir des vertus, mais ça peut aussi avoir des pendants extrêmement négatifs. Je pense à l'élection, par exemple, de Donald Trump avec l'importance de Facebook qui a été noyauté par les services secrets russes, par exemple. Une affaire pour l'instant dont on, voilà, on peut pas dire que ce soit complètement évident, mais enfin bon, en tout cas, ce sont des questions qui se posent et
on peut créer fausses informations par l'intention politique. C'est ça le grand danger.
C'est ça.
Oui. Moi, je crois que comme nous avons discuté avant que le programme, que le mouvement dans les politiques aux extrêmes, droite dans quelques pays, gauche aux autres, est quelque chose qui est un problème. Aujourd'hui, Ici en Europe, la grande expérience de l'unité européenne est plus que jamais menacée, je crois. En Amérique, les vénérables institutions qui sont la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, le progrès de la protection de l'environnement et des soins de santé abordables sont menacés aussi. Et c'est pourquoi je suis très fier de la France, de la peuple de la France, pour en choisir une chef d'État, Macron, au milieu, au centriste, inspiré, qui ouvre la voie de la réforme économique sans régresser vers une époque où les États-nations agissaient exclusivement sur la base d'intérêts paroissiaux. Mais c'est une question de politique, pas de c'est pas dans le livre. C'est aujourd'hui.
Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est-à-dire que en tant qu'observateur américain, toi, tu vois donc l'élection de d'Emmanuel Macron comme quelque chose de positif.
Oui, absolument, parce que la France a rejeté l'extrême dans ce moment où dans beaucoup de pays ça ne passe pas. Et moi, je crois que c'est un problème dans les pays qui a choisi l'extrême droite ou extrême gauche.
Ouais, oui.
Maintenant, je pars comme auteur personnellement.
Bien sûr.
C'est pas de mon roman.
C'est pas dans ton roman. Mais bon, en fait, là, c'est pas vraiment non plus une transgression parce que dans ton roman, tu poses des questions d'ordre politique. Tout à l'heure, Eden. En a parlé, il a déjà exposé ces questions-là le mois dernier. En fait, tu montres aussi, chemin faisant, comment dans un espace social donné, la révolte peut survenir. Et pourquoi, là en l'occurrence des jeunes à Paris en 68, pourquoi en fait ils sont promoteurs de changement. Mais parfois, le changement, il peut être aussi tout à fait négatif. Et les gens qui en sont promoteurs peuvent chercher à produire un changement, mais un changement dont on peut se poser des questions. Tu évoquais la question du Brexit. Tu as évoqué, je crois, ce qui s'est passé le mois dernier au Brésil. Et effectivement, donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pays qui avaient un fonctionnement démocratique qui ont tendance à dériver vers un pouvoir qu'on peut qualifier de rigide et de tendancieux.
Alors, encore personnellement, je crois que construire des murs et remonter des ponts Lévis n'est pas la voie à suivre au XXIe siècle. Cela a échoué avec des conséquences catastrophiques au XXe siècle et je crois que cela échouera de nouveau. En tant qu'un Américain qui aime son pays et le vôtre, je ne saurais assez rappeler à quel point l'exemple donné par la France est important pour le monde aujourd'hui. Ça, c'est l'élection d'un centriste, M. Macron. Je crois que les États industriels contemporains doivent parfois s'adapter à des changements douloureux, mais ils doivent, je crois, le faire d'une manière qui favorise la mobilité ascendante et protège les progrès économiques et sociaux obtenus par les citoyens au prix de nombreuses années de lutte.
Alors, de ce point de vue-là, tu dois être bien désolé de ce que Trump fait aux États-Unis.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Pas du tout. Tu peux traduire. Je pense qu'il faut que tu traduises pour.
I think we are just now see what you think about Donald Trump, because here in France, he's a really some kind extreme droite.
Oui, c'est vrai. C'est difficile. Il arrive en France le 11, je crois, pour visiter avec M. Macron. Et c'est toujours un peu difficile de parler de votre président dans un autre pays. Mais à mon avis, Donald Trump n'est pas la cause des tendances dans le monde aujourd'hui, aux droites extrêmes. Mais il est certainement beaucoup plus qu'un symptôme, je crois. Trump s'est présenté aux États-Unis comme un milliardaire prospère qui dirigeait le gouvernement comme une entreprise. Un apôtre du bon sens, mais à mon avis, non seulement il n'y a pas tenu cette promesse, mais il a fait bien pire. Son incapacité délétère à renoncer à la propagande dans des masses en tant que tactique politique, ses méchancetés et ses insultes, ses manœuvres suspicieuses, le fait qu'il baigne dans les théories de complot, sa façon habile de délibérément flatter la limite entre vérité et mensonge. C'est pas bon. Alors, les mensonges flagrants pleuvent à une fréquence telle qu'il est impossible de vous rappeler le vendredi le mensonge qui vous a indigné le lundi. Les tweets de M. Trump ont clairement révélé le portrait d'un homme dont les sympathies vont aux autocrates du monde entier, mais de Moscou à Manille, plutôt qu'aux dirigeants démocratiques.
Mais de ce point de vue-là, alors les Américains que vous côtoyez, vos amis, les gens que vous rencontrez dans les milieux intellectuels, les écrivains que vous connaissez, ils portent le même jugement que vous sur Donald Trump?
Je crois qu'il y a beaucoup qui pensent dans ce moyen. Et il y a une minorité qui accepte M. Trump, qui lui donne support sans question. Ça, c'est le problème sans participation, c'est pas le mot, un discernement critique, passivité, ça c'est
l'esprit critique.
Oui, absence de l'esprit critique, c'est quelque chose, un danger dans un moment quand une populiste, le mot aujourd'hui populiste, quelqu'un qui est plus dictateur, qui voudra être ici en France roi, mais il n'est pas roi. Ça, c'est le danger si tout le monde reste en passivité en face des défis qui ont été créés par des gens comme M. Trump. Par exemple, il a dit la presse est l'ennemi du peuple. Aux États-Unis, un grand principal de notre démocratie est une presse libre. Donc, il se sert, en anglais, le bully pulpit, la puissance du président de la République. Il se sert de cette position pour dire des choses qui est contraire de l'avenir de notre démocratie. Ça, c'est pas accepté par beaucoup de gens. On va voir en quelques semaines, le 7 novembre, on va voir dans notre système, le nombre de personnages qui pensent pour lui, pensent contre dans le vote bien qui sûr, se va passer. Sûr. On va voir. Moi, tu connais déjà mon vote. C'est pas pour lui. Excusez-moi.
De toute façon, ici en France, on est curieux de savoir comment les États-Unis en sont arrivés là. En fait, cette absence de l'esprit critique. Et quelquefois, la liberté dans les médias semble être réduite. Et où se trouve cet esprit de free speech? Comme on était dans l'année 68,
oui, oui.
C'était vraiment le début de l'esprit de free speech.
Oui, oui.
Donc on parle de tout sans avoir peur de l'autorité.
Oui.
Et c'est un peu la base de politique et de mouvement aux États-Unis. Et maintenant, avec Trump et avec ce que vous avez décrit, on a un peu tendance de penser autrement, en fait. Et pourquoi et comment, où les intellectuels aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait contre ça ?
On va peut-être reprendre après, on va faire une pause musicale, on va présenter les livres du mois et on reviendra peut-être sur cette question importante d'Eden ensuite. Mais d'abord, une pause musicale.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song?
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Bill Pearl pour son ouvrage Cœur brûlant, Paris 1968. Et nous en arrivons à la rubrique des livres du mois avec un premier livre d'Odile Boudjelloul, Les mots empêchés, donc publié chez l'Harmattan dans la collection Éducateur et prévention. Un très beau récit donc qui se passe dans une institution médico-sociale et on suit la trajectoire d'un enfant confronté à de multiples difficultés. Odile Boudjelloul est psychologue clinicienne et elle a écrit un ouvrage assez fabuleux qui nous invite à réfléchir sur les étapes qu'un enfant doit franchir pour advenir en tant que sujet quand il a été confronté à des violences extrêmement pénalisantes. Je répète le titre de cet ouvrage, Les mots empêchés d'Odile Boudjelloul dans la collection Éducateur et prévention. Un deuxième ouvrage, donc présenté par Marie-Josée Pernin Ségissement, donc le Schopenhauer, Le sens du destin, publié chez Vrin dans la collection Textes philosophiques. Donc un livre qui permet vraiment de rentrer dans la philosophie complexe de Schopenhauer et d'avoir une vision plus accessible. Je vais lire deux petits passages. La plupart des livres durent peu. Ceux-ci seuls vivent où l'auteur s'est mis lui-même. Dans toutes les grandes œuvres, on retrouve l'auteur. Dans mon œuvre à moi, je me suis fourré tout entier. Il faut qu'un écrivain soit le martyr de la cause qu'il défend, comme je l'ai été. C'est un très beau passage, je trouve, de Schopenhauer. Un passage aussi où je fais un clin d'œil à Bill Pearl et à la manière qu'il a eu de se projeter aussi dans sa propre aventure littéraire. Alors, un deuxième passage que je trouvais extrêmement important aussi, hein, puisqu'en fait, le texte, c'est Schopenhauer, le sens du destin. En effet, à l'heure de la mort, où tous les signes du destin sont apparus, de sorte que la phrase est complètement écrite pour chacun, le sens obscur et incertain, parfois équivoque, se lève. Chacun apprend qu'il a vécu ce qu'il a voulu en profondeur, qu'il était l'auteur. Alors, la liberté figée dans son acte peut être enfin ressaisie, et l'histoire reprendre ou ne pas reprendre. Je trouve que c'est un très beau texte. Je savais que Eden était là et je pense que pour lui aussi, les mots doivent résonner, sachant l'auteur qu'il est. Un troisième livre, La résistance palestinienne, des armes à la violence. Un livre de Bernard Ravenel, publié chez L'Armatan, un livre très intéressant qui montre que l'histoire palestinienne est très différente des représentations qu'on peut s'en faire. Et donc, il montre comment si parfois il y a eu des dérives de violences armées dans cette partie du monde, eh bien, en fait, de manière fondamentale, cette résistance est non violente. Alors après, il y a eu un certain nombre de manipulations ou d'instrumentation par d'autres peuples, hein, des peuples du Moyen-Orient, qui ont pu aussi prévaloir à des réalités funestes. Mais en tout cas, ce livre est très intéressant et fait la part à l'histoire. Donc, je rappelle le titre, « La résistance palestinienne, des armes à la non-violence » de Bernard Ravenel. Vraiment, pour comprendre l'histoire actuelle en Palestine, c'est vraiment un livre fondamental. Un autre livre que j'ai trouvé très beau ce mois-ci, c'est d'Isabelle Galichon, « Le récit de soi, une pratique éthique d'émancipation », publié chez L'Armatan dans la collection « Ouverture philosophique ». Un livre que j'ai trouvé assez fantastique sur le sens que peut revêtir donc cette écriture, ce récit donc de soi aujourd'hui, et donc elle convoque par exemple Foucault pour expliquer le sens de l'écriture sur soi, de l'écriture de soi. Donc, Le récit de soi, une pratique éthique d'émancipation dans la collection Ouverture philosophique d'Isabelle Galichon. Et un dernier livre de Pierre Domps et Henri Tsiang, Le Bing Bang des nouvelles routes de la soie. Un livre que je conseille vraiment à tous les auditeurs, un livre qui transforme la représentation qu'on peut avoir de la Chine aujourd'hui. Donc les auteurs connaissent bien évidemment ce pays. Pierre Domps fait des séjours très réguliers, Henri Tsiang est chinois, et en fait il nous invite à comprendre la politique macroéconomique chinoise, la manière de tisser des liens avec des pays frontaliers ou bien plus lointains. Tout à l'heure nous parlions de la Palestine, et bien voilà, donc il montre comment les rapports économiques qui s'inaugurent avec Israël d'un côté mais avec les pays arabes de l'autre peuvent permettre dans un futur très proche à la Chine de jouer un rôle géostratégique de première importance. Il montre également en fait comment le président Xi Jinping donc a complètement reconfiguré donc la géopolitique chinoise. C'est un livre vraiment très important qui donne aussi des perspectives assez positives en fait pour nous occidentaux qui sommes un petit peu dans l'incertitude et confrontés au chaos de ce que énonçait tout à l'heure Bill Pearl. Hein. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va et quand on voit les hommes politiques qui nous mènent vers des extrémités dommageables, eh bien là, on voit des portes qui s'ouvrent, notamment en matière de nouvelles technologies pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, etc. Des choses dont on parle extrêmement rarement dans les médias. J'ai été, moi, stupéfait d'apprendre des centaines de choses sur la géopolitique chinoise aujourd'hui. Donc je rappelle ce titre, Pierre Domps et Henri Tsiang, le Bing Bang des nouvelles routes de la soie, avec une préface de Jean-Pierre Raffarin qui connaît bien d'ailleurs aussi cette réalité et qui fait une introduction donc économique très très intéressante. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, nous sommes dans l'émission Un livre, un auteur avec Pascal Lereste qui invite aujourd'hui Bill Pearl et Eden Yongwook Park pour la traduction mais aussi pour une part d'animation qu'il fait d'ailleurs avec un grand brio. Donc,
c'est participation, voilà.
Exactement. Donc, Bill Pearl et Eden, vous étiez sur un questionnement. Je vous invite à reprendre.
Oui. Ah oui, c'est des questions qui étaient posées par Eden. C'est ce que fait des hommes, des femmes, de bons volontiers aux États-Unis contre la situation du politique maintenant avec M. Trump et le droit. Et moi je pense que l'Europe et l'Amérique se trouvent à la croisée des chemins, à un moment charnière d'une importance monumentale, et qu'il s'agisse de s'opposer à la disparition des démocraties libérales, des nations pro-européennes, pro-réglementaires, régies par le marché et gouvernées par le centre, avec un engagement sans faille envers une coopération mondiale ou de permettre la résurgence et la montée en puissance d'un ensemble d'idées politiques anciennes et, je crois, dangereuses, nativistes, xénophobes, suspicieuses vis-à-vis les émigrés et ouvertement autoritaires. Moi, je crois que c'est le défi majeur pour les citoyens de bonne volonté des deux côtés d'Atlantique. Et en Amérique du Sud, et peut-être en Asie, je crois, peut-être. Mais les réponses, je crois, dépendent sur les peuples, de nous. Je crois au livre de 1960, Growing Up Absurd. C'était écrit, c'est un livre d'un romancier, dramaturge, poète et psychothérapeute américain qui s'appelle Paul Goodman. Il a écrit dans cette époque, on s'abstient à penser que si 10 000 personnes de tous les milieux s'élèvent sur leurs deux jambes pour parler et faire pression, nous allons retrouver notre pays. Moi, je crois que les enjeux sont plus graves et les paramètres plus complexes aujourd'hui qu'ils étaient en 1960 ou 1968. Mais je crois aussi qu'il n'y a personne d'autre pour promouvoir la tolérance ou éradiquer la haine dans les pays. Je crois que ça dépend de nous, des peuples.
Je crois que c'est un bon mot pour finir donc cette deuxième émission. Eden, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à...
Je pense que le monde occidental est un peu en crise, hein,
oui.
Parce que ils ont un peu perdu leur idéologie.
Mm.
Ils ont un peu perdu leur idéologie qui régnait dans le monde.
Bien sûr.
Et du coup, ils sont à la recherche d'une nouvelle idéologie qui peut donner le sens dans leur vie.
Tout à fait.
De chacun, mais ils le trouvent pas, quoi, en fait.
Ok.
Et il faut absolument retrouver l'identité, de redéfinir la culture occidentale, je pense.
Ouais, c'est très juste. Bill Pearl.
Est-ce que tu veux dire un mot supplément?
Oui,
simplement
très
pour
vite.
Dire merci à l'Harmattan et à l'éditeur Xavier Perrin et son équipe exceptionnelle.
Bien sûr.
Pour
bien
mon
sûr.
Roman. Voilà.
Merci à toi de ces remerciements. Moi, je voudrais te remercier, Bill Pearl, d'être venu jusqu'à nous à Radio Grand Ciel, ici à Chartres. Te remercier parce que, voilà, tu viens de Floride, aux États-Unis, tu viens pour parler à nos auditeurs de ton ouvrage, dont je rappelle le titre, Cœur brûlant, Paris 1968, édité aux éditions L'Harmattan. Donc, un livre qu'on peut retrouver soit sur Internet, soit le commander à la FNAC, soit le commander à la librairie L'Esperluette à Chartres. Voilà, je voudrais remercier également Eden Jungwok Park d'être venu pour en renfort pour la traduction, car je n'ai pas ce talent. Et le remercier aussi finalement pour un rôle d'animateur qu'il a assumé donc avec beaucoup de prestance. Voilà, remercier également Simon Martin sans qui cette émission n'aurait pas pu se réaliser. Et donc Bill Pearl, bon retour à toi en Floride, et puis peut-être une autre fois pour la suite des aventures de Robbie.
Merci.